Bien-aimés, nous allons lire l'un des textes bibliques qui se trouve dans le calendrier ecclésiastique que nous avons en commun avec les catholiques romains. Et comme l'a dit Jean-Luc Blanc, c'est le texte sur les béatitudes. Matthieu 5, les versets 1 à 12. Avant la lecture, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de ta parole. Permet qu'elle nous rejoigne dans notre état et qu'elle féconde notre vie pour la voie et notre vie éternelle. Au nom de Jésus, amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien-aimés du Seigneur, chers amis, membres de la communauté du Pas des Cévennes, je vous salue et que la paix du Seigneur vous soit renouvelée en abondance. Lorsque dans la forêt, tu marches, et que tu rencontres deux fois le même arbre, c'est que tu t'es trompé de chemin. C'est par ce proverbe africain que je vous annonce la thématique qui va motiver notre méditation de ce quatrième dimanche après l'épiphanie. Elle est intitulée « Marchons humblement avec Dieu ». Marcher, c'est se mettre debout et être en mouvement. Poser les pas les uns dans les autres en ayant un objectif. Mais marcher avec Dieu humblement, c'est aller simplement, aller doucement avec pour boussole Dieu par son Fils Jésus-Christ. Marcher humblement avec Dieu, c'est donc se laisser conduire, se laisser guider par Dieu au moyen de son esprit, en ayant pour seul but non seulement la foi, le salut, mais aussi le royaume qu'il nous a promis. C'est justement dans cette optique que se situe le texte dont nous venons de suivre la lecture et qui porte sur les béatitudes. Dans ce passage, bien-aimé, Jésus inaugure le royaume des cieux dans un discours appelé le sermon sur la montagne. Il couvre les chapitres 4 du verset 17 jusqu'au chapitre 8, verset 17. Mais le sermon proprement dit se situe dans le chapitre 5, verset 1, jusqu'au chapitre 7, verset 27. Et qui est donc le premier des cinq que Matthieu attribue à Jésus? La force de son contenu et l'art de sa composition en font un joyau de l'histoire religieuse universelle. Il faut cependant relever que ce serment est précédé du kérigme du règne de Dieu par des guérisons et l'enseignement dans les synagogues, ce qui du coup a suscité des disciples autour de Jésus. Dans cette péricope, nous distinguons deux subdivisions, les deux premiers versets, puis les versets 3 à 12. Alors, ce passage pose quand même des problèmes que j'appelle mineurs et un problème majeur. Les problèmes mineurs, ils sont relatifs au nombre des disciples. Est-ce les 12 seulement ou les foules qui l'ont suivi? Toutes les béatitudes sont-elles prononcées vraiment par Jésus ou dans le contexte qui est le nôtre, celui donc de Matthieu? Est-ce que ce n'est pas lui qui en a ajouté, surtout eu égard à l'évangile selon Luc chapitre 6, versets 20 et suivant? Le discours, est-ce le sermon sur la montagne ou le sermon dans la montagne? À ce questionnement, nous n'avons pas à perdre de temps. Puisque, par exemple, si nous devons répondre à ces questions, nous verrons qu'en réalité, elles ne vont pas impacter le fond et le contenu du texte. Et c'est pour cette raison que nous allons simplement dire un mot sur la montagne. En effet, cette montagne est en lien avec celle où Moïse avait reçu la loi. Mais ici, Jésus ne va pas donner une nouvelle loi. Il va simplement donner son interprétation de la loi qui, in fine, donne sens à son discours qu'il va prononcer. Discours qui est la proclamation des béatitudes. Béatitude, bénédiction. Faisons ici un petit rappel historique en disant que dans la perception vétérotestamentaire, les béatitudes sont un cri de félicitation en faveur de celui qui, mettant à profit les dons de Dieu, éprouve dès l'instant un certain bonheur et qui, restant fidèle à la voie choisie, sera déclaré juste lors du jugement divin. Et c'est dans le silence, dans la profondeur de l'être, dans la profondeur du cœur, que l'être humain peut écouter, puis comprendre la pertinence de la parole afin d'adhérer à la foi en Jésus en vue du royaume. Chers amis, si nous n'avons pas une vie de silence intérieur, si nous n'avons pas un temps de silence, si nous n'avons pas un temps d'intimité avec Dieu, il nous sera difficile d'être un élu pour ce royaume. C'est ici que nous abordons le deuxième problème, dont le problème majeur qui constitue d'ailleurs la pointe du texte. Examinons à présent les versets 3 à 12. Cette séquence qui donne une typologie des béatitudes révèle que Jésus donne le bonheur aux pauvres, aux petites gens, aux humbles de la société de son temps. C'est en leur faveur que Dieu entend poser la puissance de son règne. Il entend peser la puissance de ce règne. Jésus dira plus tard d'ailleurs, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Trois articulations marquent cette deuxième partie. Primo, les versets 3 à 6. Nous avons ici quatre béatitudes qui s'apparentent. Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ces béatitudes chantent le bonheur de ceux qui s'ouvrent à Dieu dans une humilité et le refus de toute forme de violence. Par exemple, dans la première, il ne s'agit pas de la pauvreté sociologique, mais d'une attitude spirituelle qui se traduit par l'humilité opposée à l'orgueil. Orgueil, entendez, caractère de celui qui pense avoir tout, qui sait tout et qui se donne tous les droits. Ils ont tous les pouvoirs. Ils n'ont besoin de personne. Et pourtant, la personne humaine, malgré tout, a besoin de penser à sa fragilité, à sa finitude, en se considérant toujours devant Dieu comme un pauvre qui n'a rien à réclamer, rien à revendiquer, mais plutôt dépendant de lui, même s'il est affligé, comme le stipulent les béatitudes 3 et 4. Il a besoin donc de lui faire confiance pour jouir de son bon droit. Tenez plutôt. Celui qui est riche ou heureux, il est toujours insatiable. Et je pense que vous ne me dites pas le contraire. Il ne s'arrête jamais de chercher pour en avoir un peu plus. Pourquoi? Parce que le bonheur dont il dispose est un bonheur éphémère, un bonheur temporaire, un bonheur temporel, limité donc dans le temps. L'être humain, pour obtenir le bonheur et puis l'avoir par ses propres forces, ses capacités intellectuelles, morales, physiques et même spirituelles, pourquoi pas. Par exemple, au plan développementiste, les pays occidentaux, dont vos pays, ont atteint un niveau de bonheur et de bien-être grâce à l'effort humain. J'ai dit à Jean-Luc la vie est tellement simplifiée en France. Et vous pouvez vous bomber la poitrine pour dire, ben, nous on est heureux. Mais alors? Et après? Et demain? Pour accéder au vrai bonheur, le bonheur holistique et au royaume dont parle Jésus, il faut faire un dépassement de la perception classique du bonheur que l'on a. Et se porter vers les autres. Le détente dit, le partage, ce n'est pas un partage ordinaire, mais il faut partager ce que l'on a de plus cher. Et c'est ici que se situe le deuxième point de cette deuxième séquence. L'évangéliste Matthieu nous en donne les piliers dans les quatre dernières béatitudes, les versets 7 à 9. Elles s'orientent davantage vers l'agir, une vie de foi. Il s'agit de faire preuve de miséricorde, donc de pardon mutuel et de générosité, mener une vie de pureté et de droiture, être artisan et faiseur de paix et de réconciliation. Dans ces conditions, les intrigues, les querelles et les inimitiés interminables sont des antivaleurs. Je veux dire, constituent des cancers pour nos familles et nos communautés de vie. Cette béatitude nous recommande aussi de manifester de la gratitude et de générosité, puisque dans les évangiles, Jésus ne prend pas le moindre pain sans rendre grâce à Dieu et sans le rompre, puis le partager toujours avec ceux qui l'entourent. Mon ami, quelle est votre pratique? Quelle est notre pratique? Si nous agissons ainsi, nous témoignons d'une part de la reconnaissance que, malgré ce dont nous disposons comme bonheur, comme charisme, comme bien, eh bien, Dieu en est toujours la principale source. D'autre part, nous devons vivre dans la communion fraternelle avec ceux qui sont en situation et qui ploient sous le joug du manque. Cette générosité va donc au-delà de la philanthropie pour prendre le sens de la charité pour autrui à cause du Christ. Et Jésus disait, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Il le dit donc dans la perspective du verdict du royaume à venir. Tertio, les deux dernières béatitudes, la verset 10 à 12, qui en forment peut-être qu'une seule, montrent que les humbles, les pauvres, bien qu'étant actifs en marche vers ce royaume, ne seront pas à l'abri des persécutions. Ils seront provoqués de façon à les détourner de leur marche avec Dieu. L'histoire de la communauté chrétienne nous renseigne que les premiers chrétiens, à l'instar de leur maître Jésus, ont été très tôt en butte à la médisance et aux attaques à cause de Jésus. Dans certaines familles africaines, jusqu'à un passé récent, quand un enfant vient du dehors en pleurant, et lorsque les parents lui demandent « Mais pourquoi tu pleures ?» S'il ose dire « Oh, c'est un enfant qui m'a fouetté », les parents vont le fouetter davantage. On lui apprend ainsi le principe de la riposte, c'est-à-dire l'autodéfense. C'est vrai, ça n'existe pas comme ça dans toutes les cultures africaines. Hein? Alors, l'autodéfense, ce n'est pas de ça qu'il est question dans les béatitudes dont parle Jésus. Marcher humblement avec Dieu. Le combat est plutôt d'un autre ordre, celui de la fermeté malgré tout, car lui aussi s'attendait déjà à la souffrance. Et ses disciples ne peuvent pas non plus y échapper, mais ils vont absolument triompher. Ils sont ainsi promis aux mêmes épreuves que lui. Effectivement, c'est grâce à la fidélité aux enseignements contenus dans le sermon sur la montagne qu'ils ont bravé les persécutions pour l'édification des communautés. Vous êtes heureux parce que vous avez choisi Jésus. Mais ce n'est pas tout. Il faut rester fidèle. Fidèle. Et John Wesley disait, en toute chose, pensez à votre fin. Chers amis, je vous exhorte à vous approprier les béatitudes de Jésus en espérant ce royaume qu'il a promis, mais en méditant sur cette question que je vous laisse comme méditation. Où passerai-je mon éternité? Où passeras-tu ton éternité? Le Seigneur vous y aide. Amen.